Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemet.
Bonjour à tous, bienvenue à Appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel. Comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. RFI vous donne la parole pour réagir à l'actualité de votre choix. Revenir sur les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité internationale, africaine, même française. Des sujets qui font la une, mais pas seulement. Donc vous lancez le débat sur notre antenne au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France avec un premier auditeur. Il s'agit Ousmane. Bonjour Ousmane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les invités de la radio Moya.
Vous êtes à Niafourang en Casamance, tout près de la Gambie. Justement, vous voulez évoquer la situation gambienne avec cette tentative de putsch militaire de mardi dernier.
Effectivement, c'est la Gambie avec ce soi-disant complot. Donc, j'ai un peu pensé au Burkina Faso, même si on ne peut pas faire de parallèle. Je me rappelle un peu de ce mot de Thomas Sankara qui disait qu'un militaire sans conscience politique était un criminel en puissance. Et nous savons que Yahya Jammeh est un président qui agit comme un roi. La Gambie peut être considérée comme un royaume. Il n'y a pas d'institution, c'est Yahya Jammeh qui décide tout.
Alors le palais présidentiel, je rappelle quelques faits, a été attaqué mardi donc par des hommes armés, repoussé par les soldats gambiens. Yahya Jammeh, président depuis 20 ans, était en visite privée à Dubaï, il n'était donc pas au palais. Est-ce que cette attaque vous surprend, Ousmane?
Non, pas du tout, parce que les indicateurs sociaux en Gambie étaient au rouge. Je disais tantôt qu'il n'y avait pas le respect des droits de l'homme, parce qu'il n'y avait pas de démocratie en Gambie. La Gambie, il y a jamais rien comme un roi. Il faut lui faire allégeance, et finalement, il a fini par faire un vide autour de lui. Donc, ce soi-disant complot, c'est Olam Sané qui fait partie de la gang rapprochée.
Ça aurait peut-être créé des ressentiments au sein des proches de Yahya Jammeh. Restez en ligne, Ousmane, parce que on a Gildas avec nous également. Bonjour Gildas.
Bonjour Sébastien.
Vous aussi, vous vouliez réagir à la situation gambienne et vous contestez cette tentative de coup d'État.
Étant démocrate, oui, je me dis, je m'insurge contre toute volonté de poutiste. Hein. Il est clair et défini que lorsque les règles de démocratie ne donnent pas prise ou ne donnent pas de gage à un putsch, hein, pour accéder au changement de régime politique.
Même si, on le rappelle, Yahya Jammeh est lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État.
Vous vous souviendrez que cette légitimité du pouvoir de Yahya Jammeh a intervenu en faveur d'une élection en 1996. Et depuis, ce monsieur est là, et donc son pouvoir aujourd'hui est tout à fait légitimé, parce qu'il est à chaque fois réconforté par une élection, même si elle me paraît moins évidente démocratique, mais nous n'avons pas aujourd'hui à contredire cette légitimité. Maintenant, j'entends ce que dit ce Casamance, en fait, c'est intervenant de la Casamance.
Ousmane, excusez-moi.
Ousmane est à la porte même de la Gambie, hein. Il est à la porte de la Gambie, et il sait très bien que lorsqu'il dit que non, les indicateurs sociaux au niveau de la Gambie sont au rouge, je m'insurge à porte à faux, parce que le problème, oui, on peut parler des droits de l'homme, parce que depuis, je pense, 2013, je crois qu'au octobre 2013, le pouvoir, en fait, le Royaume-Uni a essayé de critiquer ce pouvoir de Yahya Jammeh, Yahya Jammeh a répliqué par une sortie de Commonwealth. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde, est-ce que les gens vivent mieux en Gambie ou pas, qu'il y a 22 ans ou 23 ans en arrière?
On va poser la question à Ousmane, qui vous dit est à la porte de la Gambie. Ousmane, vous êtes toujours là?
Oui, je suis toujours là. Je dirais oui. La Gandhi, il y a 20 ans, quand Yahya Jammeh avait fait le coup d'État, oui, on l'a applaudi. Mais au fil du temps, on a vu qu'il a fait le vide autour de lui. Il a isolé la presse. Donc,
Et la situation économique, est-ce que la situation économique s'est dégradée? Est-ce que vous avez constaté quelque chose à ce niveau-là?
Ouais. Non. Mais, vous voyez, la Gambie, maintenant, les pêcheurs commencent à quitter. Ils reviennent au Sénégal. Les Mauritaniens qui détenaient le commerce, ils ont quitté. Ils reviennent au Sénégal. Le seul secteur qui fonctionnait, c'était le tourisme. Et ça, c'est détenu par les étrangers. C'est des couples mixtes ou c'est des occidentaux. Moi, je vais souvent en Gambie faire mes courses avec Sandalassi. Les gens étaient heureux qu'ils faisaient le marché. Mais maintenant, avec la dévaluation du franc, du Dalassi et tout ça, les Gambiens commencent à souffrir.
Bon, je vais peut-être importer de l'eau à votre moulin, puisque j'ai regardé ce matin, la Gambie était classée 157e au nombre du produit intérieur brut par habitant selon le Fonds monétaire international. Le Sénégal est mieux classé, hein, 144e. Voilà, merci beaucoup. Ousmane, merci beaucoup Gildas d'avoir été en ligne pour ouvrir ce débat. C'était sur la Gambie. C'est la Libre Antenne, donc on passe d'un thème à l'autre, au 33 9 693 693 70. On passe au Congo-Brazzaville avec Marcel. Bonjour Marcel.
Bonjour Sébastien, bonjour.
Vous êtes dans la capitale à Brazzaville, vous voulez réagir notamment au dernier congrès, la session ordinaire du PCT, le parti au pouvoir du président Sassou Nguesso, qui a demandé une modification de la constitution.
Oui, justement, en fait, je voudrais apporter un bémol là au terme modification. En fait, au départ, le PCT avait l'intention de modifier la constitution de 2002, et curieusement, le PCT a changé d'avis. Parce qu'ils ont compris que cette modification n'était pas à sa portée. Le PCT a finalement décidé de changer carrément cette constitution de 2002 pour la remplacer par une autre, hein, pour en réalité, en fait, cautionner le prolongement de ce régime totalitaire. En fait, c'est ça la réalité. C'est du populisme, hein, c'est de la démagogie carrément.
Et comment vous réagissez à ce projet de c'est même plus une réforme constitutionnelle, de nouvelle constitution, parce qu'effectivement il y a beaucoup de verrous qui empêchent le président Sassou Nguesso de se maintenir. On rappelle qu'il a déjà fait deux mandats, il a 71 ans, la limite était 70 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouveau texte qui pourrait être mis en place?
Oui, mais ce nouveau texte que le PCT a l'intention de mettre en place, c'est simplement comme je vous l'ai dit auparavant tantôt là, c'est pour permettre à ce régime totalitaire de continuer. C'est-à-dire qu'on voudrait, le PCT voudrait qu'on ait un président à vie. Ça marche pas en démocratie. En démocratie, on a besoin d'alternance. Il faudrait qu'on ait de nouvelles énergies, de nouvelles mentalités, de nouvelles idées. Alors, c'est pas le cas. Hein. Actuellement, ce sont les mêmes idées que le PCT voudrait nous proposer jusqu'en 2016 et peut-être au-delà. Et ça, c'est inadmissible. Ça, je pense que le peuple congolais n'acceptera pas. Le peuple congolais n'acceptera pas d'être opprimé. Et même le peuple africain, je pense qu'ils n'accepteront pas que cela se passe dans leur pays.
Vous pensez qu'un scénario, un scénario à la Burkinabé est possible?
Oui, tout est possible, monsieur Sébastien. Tout est possible. Parce que le peuple africain ne restera jamais opprimé longtemps. Il y a un pasteur américain, un noir américain qui disait il faut faire rester indéfiniment opprimé. Le goût de la liberté finit toujours par se manifester. C'est le cas, c'est ce qui se passera au Congo-Brazzaville et dans d'autres pays africains aussi.
Eh bien, vous ouvrez le débat avec trois jours d'avance. Effectivement, ce sera le sujet de lundi, hein, sur le Congo-Brazzaville et cette demande du PCT de faire une nouvelle constitution. Également, le discours de Sassou Nguesso, le discours du Nouvel An, du Réveillon, de la Saint-Sylvestre, qui Sassou Nguesso, qui parle d'un débat serein au sujet d'une réforme constitutionnelle. Merci Marcel, vous nous appeliez depuis Brazzaville, 33 9 693 693 70. En ligne depuis Abidjan, à présent, nous sommes avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Sébastien, bonne heureuse année aux auditeurs de la Radio Mondiale.
Bonne année, vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire et vous voulez parler du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le premier parti d'opposition, le parti créé par l'ancien président Laurent Gbagbo, qui finalement ne pourra pas se présenter à la présidence de son propre parti.
Oui, tout à fait, Sébastien. L'ancien président Laurent Gbagbo étant en prison à La Haye, donc peut pas avoir toutes les manettes pour diriger le FPI. Et je trouve que la décision de justice qui a été rendue, elle est bonne. parce que, comme je l'ai dit, Gbagbo n'a pas les manettes pour vraiment diriger le parti. Même si il veut le diriger par procuration, ça sera dans l'intérêt de ses partisans.
Pour vous, donc, c'est effectivement, Laurent Gbagbo est emprisonné à La Haye, aux Pays-Bas. Il est détenu par la Cour pénale internationale, qu'il accuse de crimes contre l'humanité présumés suite aux violences de la dernière crise post-électorale. Pour vous, cet éloignement physique rend totalement impossible diriger le FPI?
Oui, il n'est pas dans les capacités de diriger le FPI. C'est pas possible, parce que ça serait sans objectif. Parce que même, quand bien même ces dirigeants prendront attache avec M. Laurent Gbagbo dans certaines décisions, ça sera pour leur propre intérêt. Parce que sans même consulter Gbagbo, ils diront que bon voilà, c'est le président Gbagbo qui l'a dit, alors qu'en réalité ils l'ont même pas contacté.
Alors Jean-Pierre, voilà, restez en ligne avec nous. Nous avons également Kevin qui nous appelle depuis Londres. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Vous Kevin, vous contestez cette décision de justice?
Bien évidemment, je voudrais d'abord dire merci à celui qui vient d'intervenir.
À Jean-Pierre, voilà.
Oui, à Jean-Pierre, lui dit merci pour son intervention. C'est au nom de la démocratie consacrée par le Front Populaire Ivoirien en Côte d'Ivoire qu'il peut aujourd'hui dire ce qu'il dit. Sinon, je dis que la reine n'avait pas à se mêler de l'affaire du Front Populaire Ivoirien. Vous comprenez? Pour le Front Populaire Ivoirien, le président Pascal Affine Nguessan, l'acte qu'il a posé n'est pas un bon acte. C'est ce que moi je dis.
Bon, pardon de vous couper, mais c'est Pascal Affine Nguessan qui a saisi la justice. Après, la justice ne fait que se prononcer sur cette affaire. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle s'est mêlée des affaires du FPI?
Oui, mais la justice peut aussi dire à M. Pascal Affine Nguessan qu'elle est incompétente pour statuer sur ce dont il se plaint. La justice, quand vous plaignez, la justice peut vous dire non, cette plainte, elle est irrecevable. Voilà. Donc, je voudrais rebondir sur ce que le monsieur a dit tout à l'heure. En fait, M. Pascal Affine Nguessan a le même statut que le président Laurent Gbagbo actuellement. Les deux, ils ont le même statut. Le président Laurent Gbagbo, il est en prison, certes, mais Pascal Affine Nguessan aussi est prisonnier.
Alors, il comparait, c'est vrai qu'il comparait aux côtés de Simone Gbagbo, dont le procès a commencé cette semaine, mais si je me trompe pas, il comparait libre. Il a juste à être présent aux audiences. Il a quand même une certaine liberté de mouvement.
C'est une liberté provisoire, monsieur. Mm-hmm. En tout moment, la justice peut le reprendre. C'est une liberté provisoire. Mais je voudrais dire une chose. C'est que le président Laurent Gbagbo, sa présence à la haie, c'est une présence qui se justifie par le fait qu'il a été président de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous disons que le président Laurent Gbagbo, là où il se trouve, il lui faut des instruments politiques pour que la justice internationale comprenne mieux que Laurent Gbagbo, ce dont on l'accuse, en réalité, n'est pas juste, n'est pas vrai. Cet instrument politique, c'est de lui remettre le Front Populaire Ivoirien, qu'il soit en prison ou pas. C'est pas là le problème, le débat ne se trouve pas à ce niveau-là. Nous disons qu'il soit prisonnier ou pas, c'est lui qui est capable de gérer le Front Populaire Ivoirien en l'état actuel des choses.
Alors Kevin, restez en ligne parce que j'aimerais que Jean-Pierre rebondisse sur vos propos. Jean-Pierre, vous êtes toujours là?
Oui, Sébastien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kevin. J'estime que le FPI, c'est le gouvernement qui donne les agréments, les autorisations. Alors, si M. Affine Nguessan a saisi la justice, c'est pour éviter, parce que le directoire du FPI avait les deux pieds dans le même sabot. Donc, c'est seulement la justice qui pouvait décider. Et donc, Affine Nguessan a saisi la justice et la justice a été rendue. Mais M. Gbagbo, étant un ancien président, il a toujours le pouvoir de dire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'être président du parti pour se libérer de la haie. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Monsieur Kevin vient de dire.
Bon, vous ne mettra pas d'accord tous les deux ce matin. En tout cas, on aura l'occasion d'en débattre à nouveau sur l'antenne. Merci à vous, Jean-Pierre. Vous nous appelez depuis Abidjan. Merci à Kevin qui était en ligne depuis Londres. 39 693 693 70 09 693 2 fois 70. Vous nous appelez au standard pour débattre des sujets de votre choix. C'est la libre antenne, c'est le principe. En ligne avec nous, Shadi Mokarim. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Franceville, au Gabon, et vous vouliez aborder le débat récent entre l'opposition et le pouvoir gabonais. C'est très tendu en ce moment dans le pays, avec notamment la manifestation du 20 décembre dernier dans le quartier de Rio. Il y a eu des blessés, un mort officiellement, 6 selon l'opposition. Que pensez-vous des critiques de cette opposition au président Ali Bongo?
Bon, alors moi déjà je vais apporter un témoignage sur un peu la situation de ce qui se passe au Gabon. Je suis moi-même né au Gabon dans les années 80 et je peux vous dire que depuis que j'ai eu l'âge de voir ce qui se passe, j'ai pu voir qu'aucun bâtiment majeur ou une infrastructure de développement n'a été faite avant 2009. C'est-à-dire que quand je suis venu au monde, tout était déjà fait. Et depuis, rien n'a été fait. Après l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, nous pouvons maintenant voir un vrai développement au Gabon. Ça veut dire que je parle de logements, de routes, d'hôpitaux de dernière génération.
C'est vrai que le président a lancé en 2009 le plan stratégique pour un Gabon émergent, pour faire du pays un pays émergent d'ici 2025, avec une diversification des revenus et notamment moins de dépendance envers le pétrole. Pour vous, ce programme porte ses fruits concrètement sur le terrain ?
Alors, pour moi, ce programme est en cours. On est juste à 5 ans de développement après de longues années de stagnation sans croissance. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde ne met pas ses efforts dans la même direction pour apporter un réel développement et faire encore plus. Parce que là, dans ces conditions, avec un climat pareil, comment voulez-vous que les investisseurs puissent venir au Gabon ?
Et c'est vrai que le taux de croissance gabonais était de 7,5% en 2013. On attend 8,5% en 2015. Pour vous, les arguments de l'opposition, notamment concernant la nationalité du président Ali Bongo, tout ça, ce n'est pas recevable?
Bon, ce sujet-là, c'est un débat déjà, je n'étais pas né. Je vous dis bien, je suis né dans les années 80. Je n'ai pas la moindre idée de ces histoires-là. Ce n'est pas du tout à mon niveau. Ce n'est pas une question ou quelque chose de ma génération. Pour moi, ce que je sais, c'est que ceux que vous appelez opposition aujourd'hui sont ceux que moi j'ai toujours connus, ministres et barons du système. Donc, ils sont un peu les coupables de la situation dans laquelle on est.
C'est vrai que parmi les leaders de cette opposition, on a, on peut citer Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères sous Omar Bongo, Monsieur Higuain Dong, qui était Premier ministre. Merci beaucoup, en tout cas, Shadi Boukarim, d'avoir été en ligne avec nous depuis Franceville. 33 9 693 693 70, 09 693 2 x 70, en ligne avec nous. Abdoul Karim, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonne et heureuse année à tous les auditeurs et auditrices de RFI.
Excellente année 2015. Vous êtes à Niamey, au Niger. Vous vouliez nous parler de la situation de Boko Haram, le groupe islamiste qui étend de plus en plus son influence sur la région.
Effectivement, la secte Boko Haram, sa question reste et demeure plus préoccupante que jamais. Et vous n'êtes pas sans savoir et que c'est une secte qui, aujourd'hui, tous ces actes de barbarie qu'elle fait au nom de l'islam, qu'elle le fait, alors que l'islam est une religion de paix, une religion de tolérance. Et aujourd'hui, il est regrettable de voir que c'est une secte, et elle a de plus en plus de tentacules un peu partout. Et dernièrement, ils ont pu attaquer le Cameroun. Et aujourd'hui, nous partageons une grande frontière avec le Nigeria voisin, et les citoyens sont de plus en plus inquiets par rapport vraiment aux actions de cette secte Boko Haram. Et c'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une synergie de l'ensemble de nos États, c'est-à-dire une sorte de mouvement d'ensemble, mettre en place une force spéciale afin vraiment de pouvoir contrer ces actes de Boko Haram. Et également, il y ait aussi la population qui puisse vraiment contribuer à dénoncer des individus mal intentionnés. Voyez-vous.
Voilà, plus de synergie entre les pays africains de la région, Cameroun.